Bien. Alors, j'ai le très grand plaisir de recevoir aujourd'hui François Julien pour son dernier ouvrage qui vient de paraître le 15 mars aux éditions Gallimard, qui s'intitule « Vivre de paysage ou l'impensé de la raison ». Et ce livre fait couple avec le précédent de François Julien, qui s'intitule « De l'intime, loin du bruyant amour », qui est paru il y a exactement un an. François Julien est professeur à l'université Paris Diderot et il est également titulaire de la chaire sur l'altérité du Collège d'études mondiales de la Fondation Maison des sciences de l'homme que dirige Monsieur Viellurca. Alors François Julien a une œuvre conséquente derrière lui. Il me semble que c'est son 30e livre qui paraît là. Si. Et donc c'est une œuvre qui est cohérente, qui est consistante et qui est aussi ouverte. Chaque nouvel opus est l'objet d'un soin particulier et François Julien a aussi un style d'écriture qui est tout à fait intéressant. Pour ce qui me concerne, je l'ai découvert il y a longtemps et d'ailleurs j'étais présent à un entretien qu'il avait eu à la médiathèque de Talence, entretien qu'il avait eu avec Guillaume Leblanc qui est ici présent aujourd'hui à propos du livre intitulé « Du temps ». Également, vous avez fait paraître récemment votre leçon inaugurale de la chaire sur l'altérité à la Fondation Maison des sciences de l'homme, que vous avez intitulée « L'écart et l'antre », et ce qui est d'ailleurs un titre tout à fait significatif concernant la méthode que vous appliquez tout particulièrement dans « Vivre de paysage » ou « L'impensé de la raison ». Votre méthode, en effet, consiste à essayer de réfléchir, de découvrir des chemins de pensée, un impensé, à partir de la Chine, à partir d'une pensée qui est en quelque sorte sans lien avec la pensée grecque et la pensée occidentale européenne. Et donc, c'est une pensée de l'antre, d'autant plus que ce que vous retenez de la pensée chinoise est, je dirais, une pensée de l'écart. Voilà ce que je voulais dire pour vous présenter rapidement. Et maintenant, je vous laisse la parole.
Merci de votre accueil, merci de votre présence, merci de m'avoir invité. Je suis effectivement philosophe et sinologue, donc je circule entre côté chinois et côté européen de la pensée. Je me suis construit comme ça un dispositif philosophique sans m'installer, puisque je suis philosophe, donc je viens de la Grèce, mais je fais le choix d'un pas de côté, par la Chine, du grand côté chinois, pour sortir à la fois de la langue européenne, plutôt indo-européenne, le sanskrit est encore communiqué avec le grec, le latin, donc on est encore du même côté, et en même temps des rapports d'histoire, puisqu'il faut attendre très longtemps pour que les deux côtés du grand continent, chinois et européen, commencent à communiquer. Donc ce qui m'a intéressé en partant en Chine, c'était donc de quitter la tradition européenne ou la filiation européenne, ou comme dit Nietzsche, l'atavisme européen, pour donc m'en écarter et remettre en perspective d'où je venais. C'est pour ça que la notion d'écart pour moi est importante, parce qu'effectivement, ce qui m'importe, c'est de construire le vis-à-vis entre la pensée européenne et la pensée chinoise, non pas pour comparer, j'insiste là-dessus, c'est pas la comparaison, parce que la comparaison implique de penser en termes de différence et de ressemblance, donc de ranger. Enfin, on range en vis-à-vis les pensées chinoises européennes. Ce n'est pas ce que je fais. Il s'agit pour moi de construire ce vis-à-vis de façon à faire que les pensées européennes et chinoises se réfléchissent l'une dans l'autre. Se dévisagent l'une l'autre, se réfléchissent l'une dans l'autre. Et ouvrant cet écart entre pensée chinoise et pensée européenne, eh bien, essayer de promouvoir un antre, comme on dit, du dialogue, un antre de la réflexivité de ces pensées. Au fond, si je passe par la Chine, c'est à la fois pour éprouver ce que peut être un dépaysement de la pensée. Qu'est-ce qu'il y a à la pensée quand elle quitte ses grandes notions, quand elle quitte la pensée de l'être, de la vérité, de Dieu, de la liberté, enfin tout ça, quand on quitte ça, comment on pense? Donc dépaysement de la pensée, en même temps que revenant sur la pensée européenne à partir du dehors chinois, il s'agit pour moi de réinterroger, plutôt d'interroger, de songer à interroger les partis pris européens, les partis pris comme ça, enfouis de la raison européenne, véhiculés comme d'évidence, véhiculés comme valeur de soi, et qu'on peut redécouvrir à partir du dehors chinois. Donc il s'agit pour moi, en fait, passant par la Chine, d'une prise oblique pour remonter dans notre impensé, de façon à relancer la philosophie. Et c'est ce que je vais essayer alors de développer rapidement maintenant sur la question du paysage. Profession sur le paysage qui prend effectivement la suite de la réflexion sur l'intime que j'avais fait paraître l'an dernier, et qui prenait elle-même, cette réflexion sur l'intime faisait suite à une réflexion sur le vivre, philosophie du vivre, donc il y a pour moi un cheminement de philosophie du vivre à mon petit livre sur l'intime, à celui sur le paysage, et effectivement la notion d'antre et d'écart, plutôt d'écart et d'antre, font lien. Alors, pourquoi s'intéresser à la question du paysage? Ou par quel biais je peux y entrer? Bien, je dirais qu'au fond, ce qui m'a inquiété dans la pensée du paysage, c'est les définitions qu'on en a eues en Europe, définition qui n'a pas bougé, définition qui tient à un mot qui s'est instauré au milieu du XVIe siècle, et qui est un mot européen. C'est ça qui m'intéresse. C'est un mot européen parce qu'au fond, pays, paysage, land, landschaft, landscape, et puis en espagnol, en italien, même en russe. On a donc une géographie théorique de l'Europe qui se dessine dans un même mot, qui est le même mot, la même composition de mots, qui se crée donc au XVIe siècle avec l'avènement d'une peinture qui devient peinture de paysage. On passe de la peinture de personnage à celle de paysage. Et donc, d'abord, vous savez, par la fenêtre ouverte au fond du tableau, de la peinture italienne, mais déjà avant, dans la peinture hollandaise, quelque chose comme ça, cet arrière-plan du tableau naturel progressivement est venu au premier plan. Et donc, il y a une mutation de la peinture européenne qui fait devenir un terme nouveau, celui de paysage. Alors, cette définition du paysage, si on prend le petit Robert, comme dans sa version plus récente, la définition est « partie de pays que la nature offre à un observateur ». Cette définition m'inquiète. Pourquoi? Parce qu'elle suppose de partis pris qui ne sont pas réfléchis, ce que j'appelle impensé. J'appelle impensé soit à partir de quoi nous pensons et que par la même nous ne pensons pas, ce à quoi notre pensée est adossée. Eh bien, partie de pays que la nature offre à l'observateur me paraît une définition peut-être pas partielle, partiale en tout cas, qui risque de faire rater quelque chose d'important, puisqu'à la fois, nous sommes partis, le paysage serait donc découpé une partie du pays. Donc, quel est ce rapport partie-tout qui est sous-entendu ici? D'autre part, la position de l'observateur en face du paysage, qui donc renvoie à la question, enfin, là, au grand rapport du sujet et de l'objet. Et vous savez que la notion de paysage est advenue dans la peinture européenne avec la construction de l'objectivité. Toute cette position de l'observateur, celui qui est devant, qui regarde devant, n'est-ce pas, qui est devant le paysage. Donc, parti pris de la partie et du tout, de l'aspectuel ou du visuel, et du rapport sujet-objet. Et c'est ce qui me semble, disons, pouvoir être interrogé dans notre définition du paysage. Alors, le paysage, évidemment, dans la peinture, naît d'une... l'avènement d'un espace objectif. Mais évidemment, la peinture ni la poésie ne s'arrêteront là. Et progressivement, feront passer le paysage du côté du subjectif. Et comme disait Hugo, un paysage n'est pas fait avec la géométrie. Et c'est vrai que le romantisme a conduit à faire paraître cette dimension subjective du paysage en l'écartant de cette construction objective qui a précédé. Néanmoins, c'est ce qui me semble pouvoir faire question. En tout cas, qui paraît d'autant plus étonnant si on le considère à partir de cette autre tradition de la pensée du paysage qui a commencé beaucoup plus tôt, qui a commencé en Chine un millénaire plus tôt, puisqu'il y a en fait deux grandes cultures du paysage, l'européenne et la chinoise ayant précédé, oui, d'un millénaire à peu près, et que le chinois dit tout autrement paysage. Tout autrement, c'est-à-dire tout autrement que l'anglais, l'allemand, le français, l'italien, bref, que toutes ces langues-là, par un tout autre choix de la pensée, puisqu'il dit encore aujourd'hui montagne eau, shan shui ou shan chuan. Donc il ne se pose pas du tout qu'il y ait une position d'un sujet face à un objet qui serait le paysage et que l'œil du sujet, par sa position, découperait comme horizon dans le pays, mais il dit quelque chose de tout autre qui est eh bien, le haut et le bas. Qui est, ce qui est immobile, la montagne, et ce qui est mobile, l'eau, qui est ce qui informe la montagne, et ce qui informe l'eau, et puis ce qu'on voit, la montagne, et ce qu'on entend, l'eau. Bref, une corrélation, plutôt un jeu de corrélation. Donc ce qui m'a important, c'est ça, c'est cette autre façon d'entrer dans ce que nous appelons, nous, paysage, et que nous ne penserions pas à appeler autrement, sauf à quitter notre langue, et à passer par cet autre biais que nous propose la pensée chinoise. Donc je crois qu'il y a quelque chose là qui est vraiment un dépaysement ou un décalage, un déplacement en tout cas, que nous fait faire la pensée chinoise, en pensant donc le paysage comme une corrélation. Corrélation diverse entre montagne et eau. Alors d'abord, si je reviens à ce qui a été le point de départ, ou disons le préjugé, de la pensée européenne dans la pensée du paysage, je dirais que ce que fait apparaître la pensée chinoise, c'est que le paysage est un tout. Ce n'est pas une partie découpée dans un pays. Partie de pays que la nature présenterait, offrirait à l'observateur. Au fond, ce qu'est la conscience chinoise du paysage, c'est que le paysage est un tout. Un tout, ce n'est pas un coin du monde. C'est toujours une totalité. Donc, le paysage nous ferait apparaître à la fois local et global en même temps. Ça qui fait paysage, une totalité. Deuxièmement, à ce qui en découle, et là on voit comment pensée chinoise et pensée européenne ont différemment travaillé, le fait que quand nous pensons en termes de partie et de tout, c'est donc nous pensons en termes de composition. La partie ou les parties composant le tout. Et il y a là effectivement un geste marquant de la pensée grecque. La composition, qu'on retrouve dans différents domaines, en géométrie, le point, la ligne, la figure, qu'on retrouve en physique, l'atome, composant des corps, et dont on voit bien ce qui a été l'arrière-plan, parce que les Grecs eux-mêmes l'ont dit, qui est dans la langue, qui est la langue alphabétique, qui est la lettre se composant en voyelle, et puis après en mots, en éléments de phrase, en phrase, en discours. Alberti, par exemple, à propos de la peinture, tiendra l'analogie entre la composition picturale et la composition de la phrase. En tout cas, ce que disait déjà Lucrèce, c'est que les corps sont composés d'atomes comme les mots sont composés de lettres. Donc, logique de la composition. Donc, la composition qui est tellement présente dans la pensée européenne, dans la constitution du savoir européen, qu'il me paraît important de pouvoir s'en retirer, s'en écarter, et la considérer d'un dehors, comme d'un dehors chinois, qui nous fait apparaître une logique non pas de composition, mais de corrélation. Encore en chinois aujourd'hui, pour dire juste, exact, dans la langue contemporaine, on dit doué. Doué signifie quoi? Apparié, bien corrélé, c'est-à-dire l'un répond à l'autre. Et c'est un grand choix de la pensée chinoise que de penser donc par corrélation, c'est-à-dire par appariement des opposés complémentaires, ce que vous savez dans les termes yin et yang, pas yin et yang qui sont l'adret et l'ubac de la montagne, le côté ombreux et le côté éclairé, les deux allant de pair, l'un ne pouvant pas aller sans l'autre, donc par corrélation, qui se retrouve dans ce terme de montagne et d'eau, et qui compose, disons, vous voyez, je suis, il faut que je me rééduque moi-même dans mon langage, puisque cet terme de compromis est tellement important chez nous, et qu'il faut donc s'en retirer pour penser ce qui est l'accouplement. La logique chinoise est une logique d'accouplement, et aussi dans la formulation, ce qu'on appelle la phrase, puisque l'écriture chinoise, l'écriture par, qu'on appelle parallélisme, en fait, c'est-à-dire par, par formulation opposée et complémentaire qui se répondent. J'en donnerai des exemples tout à l'heure. Ce que vous trouvez, par exemple, dans les formulations chinoises les plus élémentaires, pour dire choses en chinois, on dit est-ouest. Donc, si, on dit une corrélation. Et pour dire le monde, on dit ben, le ciel et la terre. Et donc, pour dire le paysage, ce qu'on appelle nous le paysage, on dit ben, les montagnes et les eaux. Enfin, l'article est de nouveau montagne, eau. Alors, cette pensée de la corrélation s'est épanouie donc en Chine dans celle du paysage et fait apparaître une poésie de paysage dont on voit l'avènement en Chine au 4e siècle, 4e, 5e siècle. Donc très tôt par rapport à ce qu'a été l'avènement du paysage dans la conscience européenne. Je vous en dirai, alors il y a un grand poète que je cite parce que c'est un des grands poètes chinois et le premier à avoir promu de façon aussi dans son œuvre le thème du paysage, plutôt la promenade dans le paysage. Alors comme tous les Chinois, c'est un Chinois haut fonctionnaire, mais qui se trouve démis, parce que l'histoire chinoise au 4e siècle est une histoire assez terrible, donc démis de sa charge, exilé, et qui donc parcourt eh bien, ce paysage du sud du Grand Fleuve, la région de Hangzhou, de Ningbo, enfin, au sud du Grand Fleuve en Chine, et donc qui promeut cette poésie de paysage. Alors je vous en cite, j'ai fait le choix, pour traduire un peu du chinois, traduit littéralement. Parce que la langue chinoise est une langue qui ne conjugue pas, qui ne décline pas, donc sans morphologie. Et la tentation, évidemment, c'est de, passer en français, de refaire des phrases françaises, en conjuguant. Et si je conjugue, c'est je mets du sujet. Et puis je temporalise, n'est-ce pas, je présent au passé, etc. Je fais des choix que le chinois ne fait pas. Donc, le choix que je fais moi, c'est de ne rester au plus près du texte chinois. L'expression chinoise étant parataxique, non pas syntaxique, par des accords, directions, mais parataxique, et donc permettant une lecture autant verticale qu'horizontale, puisque les termes se répondent d'un vers à l'autre. Je vous donne un exemple. Montagne, traversée, aller au bout, grimper, descendre. Vous voyez la pensée de la corrélation. Montagne, traverser, aller au bout, monter ou descendre. À quoi répond le second vers ? Eau, aborder. Donc, eau répond à montagne. Aborder répond à traverser. Aller au terme répond à aller au bout. Remonter répond à grimper. Dévaler répond à descendre. Pic se dresser, sommet s'enchaîner, s'étageant. Plage se dérouler, îlot se lier, se succédant. Donc les vers 3 et 4 reprennent les pics, les plages, se dresser, se dérouler, les sommets, les îlots, etc. Vous voyez donc corrélation, c'est-à-dire qu'au fond, le sens, au lieu de s'énoncer seulement discursivement ou narrativement, eh bien, accouple. Accouple, à Paris, bref, ce qu'on a, c'est le propre de la poésie chinoise que de procéder ainsi par corrélation. Et donc le paysage porte comme ça cette vocation de la corrélation et la déploie. Alors, on peut néanmoins penser qu'il y a parallélisme sans influence historique. C'est ça qui est intéressant quand on passe en Chine, c'est que jusqu'à une époque tardive, il n'y a pas de rapport d'histoire. Dans le fait que les deux peintures, les deux grandes peintures au monde, l'européenne d'un côté, la chinoise de l'autre, ont connu les mêmes mutations d'une peinture de personnage à une peinture de paysage. On sait ce qu'il en est du côté européen. On voit donc le paysage apparaître à la peinture hollandaise, la peinture italienne, d'abord comme le fond ou la fenêtre, et puis progressivement, ce fond, cette fenêtre se déploie et donc font que les personnages, eh bien, non pas disparaissent, ils peuvent disparaître, mais en tout cas, deviennent moins importants. On a la même évolution en Chine, mais 1000 ans plus tôt. D'une peinture de personnage à une peinture de ce que nous appelons paysage. Donc là, il y a une chose à interroger. Quel est ce destin qui serait celui de la peinture à passer ainsi de personnage à paysage? On peut en voir alors une raison dans le fait que, de part et d'autre, la peinture de paysage advient quand on commence à se retirer de la ressemblance. C'est ça qui est, disons, la raison commune, alors que les deux côtés ne se connaissent pas. Mais disons, la raison commune serait celle-ci, c'est qu'au fond, on le voit bien en tout cas exprimé du côté chinois, par le fait que la grande mutation de la peinture chinoise, c'est très tôt de se désintéresser de la ressemblance. Comme dit le grand lettré Su Dongpo, la ressemblance est un jeu d'enfant, c'est un enfantillage. Qu'est-ce qu'il faut donc peindre si ce n'est pas la ressemblance qu'on peint? Et effectivement, la peinture chinoise connaît cette mutation. Je vous cite donc ce lettré Su Dongpo qui dit qu'il y a deux listes, c'est pas de ce qu'on peut peindre. D'une part, des hommes, des animaux, des palais et des ustensiles, tout ce qui a forme constante, uniforme. Ça, c'est pas très intéressant à peindre. Et puis l'autre liste, qui est des montagnes, des rochers, des bambous, des arbres, des eaux, des vagues, des vapeurs, des nuages. Et ça, c'est là que la peinture se déploie. C'est parce que si vous peignez des hommes, des animaux, ou des palais, des maisons, des ustensiles, vous êtes donc conduit à respecter une ressemblance. Si vous peignez un homme, il faut bien qu'il ait des bras, des jambes, une tête, enfin bon, bref. Alors que quand vous peignez des montagnes ou des rochers, il n'y a aucune forme qui s'impose. Et encore moins si c'est des eaux, des vagues, des vapeurs, des nuages. N'importe quelle forme. Donc il faut peindre non pas la forme qui serait plus ou moins ressemblante, mais ce par quoi il a forme. Ce par quoi il a forme, c'est-à-dire comment l'énergie a pu, comme ça, se condenser, se concentrer, s'actualiser de sorte que la forme advienne. Mais un rocher a n'importe quelle forme. Et dans les manuels de peinture classiques, alors que chez nous, quand on s'exerce au dessin, à la peinture, on s'exerce à la forme du corps humain, on peint des nus, on peint sur modèle, eh bien, du côté chinois, ce qui est le béaba de la peinture, c'est peindre des rochers. Un rocher a n'importe quelle forme, mais il faut peindre ce par quoi le rocher a pris forme. Donc ce principe, pas ce principe, ce qu'on va appeler en termes chinois l'énergie, l'énergie, la respiration, ça s'appelle qi en chinois, qui est cette dimension d'essor qui coagule, s'actualise, s'individue et forme, des actualisations singulières. Ce qui est donc, pour ça, le paysage est essentiel à la peinture chinoise, parce qu'il répond à ce qui apparaît comme étant la vocation de la peinture, qui a résumé un grand principe un penseur du 5e siècle. Donc l'énergie, notamment quatre caractères, énergie, souffle, respiration, qi. Tous ceux qui pratiquent le qigong savent ce que c'est, n'est-ce pas? C'est ce qui, au fond, pour les Chinois, le fond de la réalité. Fond avec un S, n'est-ce pas? Ce fond sans fond du réel. Cette sorte d'énergie comme ça, et qui est le fond des choses. Une, non pas son, mais sonorité. Chang, vie, donc mouvement. Donc cette vitalité qui émane du fond des choses dans son énergie et qui donc va s'individuer, s'actualiser en forme particulière. Donc c'est ça que la peinture déploie comme vocation. Dans cette corrélation de la montagne et de l'eau, la montagne déploie les cours d'eau et le cours d'eau anime l'as de la montagne. Donc vous avez comme ça une corrélation qui se fait entre. Alors, on voit mieux l'écart se constituer entre peinture chinoise du paysage et peinture européenne. À partir de ce qui a été la grande conquête de la peinture européenne, notamment concernant le paysage, qui a été la perspective. Vous savez que c'était cette conquête théorique et héroïque de l'Europe, à travers Alberti et d'autres, c'est pas la peinture italienne, pour construire la perspective. Et là, on est bien dans cette logique d'un sujet devant le monde, observateur, et construisant son objet perceptif avec selon une vérité qui sera la perspective. Est-ce qu'il y a quelque chose d'équivalent du côté chinois, à la perspective qui a été donc cette prouesse de la peinture européenne à partir du XVIe siècle, et que la peinture moderne va vouloir défaire, s'acharner à casser, n'est-ce pas, c'est ce qui fait la modernité de la peinture. Dans la peinture chinoise, il n'y a pas la perspective, mais on trouve un texte, notamment un grand texte de Song, de Gossi, au XIIe siècle, sur les différents lointains. De même qu'il y a corrélation de montagne et d'eau, il y a corrélation de trois lointains. Trois lointains, je vous cite ce qu'il en est. Du bas de la montagne, lever la tête vers le sommet de la montagne, c'est ce qu'on appelle le lointain haut, donc de bas en haut. Du devant de la montagne, percer du regard derrière la montagne, c'est ce qu'on appelle le lointain profond, derrière. Et des montagnes proches, contempler les montagnes lointaines, c'est ce qu'on appelle le lointain plan. Donc il y a en fait là encore conjonction, corrélation de différents modes de lointain qui ensemble produisent ce que nous avons appelé de façon univoque la perspective. En tout cas, ce qui est important, c'est que du côté de la perspective européenne, on a cherché une vérité. Vérité de la représentation. Et quand Alberti, dans son De Pictura de la peinture, version italienne, version latine, présente sa pensée de la perspective, il la présente comme étant, oui, une vérité acquise, n'est-ce pas ? Parce qu'on a découvert un secret de la nature, alors que du côté chinois, il n'y a pas du tout cet enjeu de vérité. Et c'est un des grands écarts entre la pensée chinoise et la pensée européenne, le fait que la philosophie en Europe est préoccupée de la vérité, c'est pas, en a fait son objet privilégié, recherche de la vérité, alors qu'en Chine, il ne s'agit pas de vérité, il s'agit de déployer la vitalité, il s'agit donc de penser cette chose à la fois locale et globale qui est un paysage, sans donc le faire dépendre d'une ce qui serait une vérité, comme a été cette vérité du paysage en Europe, à la perspective d'une vérité d'abord géométrique. Ce qui fait que notre pensée du paysage passant d'Europe en Chine connaît ce déplacement majeur. En Europe, on pensait le paysage à partir de la vue, la perception, la perspective. Comme dit la définition du repère, partie de pays que la nature offre à un observateur. Avec cette idée donc d'un point de vue, d'une position du sujet, d'une part, et d'un point de fuite à l'horizon. Bref, dans ce rapport essentiellement visuel. Or, ce qui me paraît important quand on passe du côté chinois, c'est que la pensée du paysage se détache de la vue pour se reporter du côté du vivre. Paysage, c'est un déploiement du vivre. Et j'étais donc amené dans mon travail à distinguer, donc penser comment s'écarter du visuel ou l'aspectuel, qui a été comme la grande, pensée du paysage en Europe. Donc à distinguer vue et paysage. Si je dis une vue de la Seine ou de la Garonne, n'est-ce pas, ou un paysage de la Seine, quel est l'écart entre les deux? Eh bien, une vue d'eux assigne. C'est ici, n'est-ce pas? Alors que paysage délaisse cette assignation locale et présente une totalité. Je crois que c'est ce qui est important, parce que le paysage met en relation les éléments invoqués sans les construire dans une perspective visuelle. Et en Chine, on voit bien que le paysage, au fond, c'est là où s'épanouit la vitalité. Le même penseur, Guoxi, qui est à la fois un grand peintre et un grand penseur de la Chine au XIIe siècle, dit bien qu'il y a des paysages qu'on contemple, ceux qu'on traverse, mais ce ne sont pas les grands paysages. Les paysages qui sont les vrais paysages, les vrais paysages, ce sont les paysages dans lesquels on se promène ou qu'on habite. Et donc, ce qui est évoqué à propos du paysage, c'est la façon dont le paysage dont déploie un lieu de vie. Donc, l'enjeu se déplace du visuel vers le vivre, et c'est ce qui paraît, disons, à réfléchir dans notre pensée du paysage aujourd'hui. Alors, je vais essayer, dans le peu de temps que j'ai, de marquer un peu les points de réflexion successifs. Puis après, si on peut, on ouvrira sur la discussion à la vôtre, peut-être à la salle. Donc, je vais aller simplement signaler des points, des repères, en quelque sorte, ce que nous donne à penser la pensée du paysage en Chine par rapport à celle que nous avons développée en Europe. D'abord, alors, je vais proposer peut-être des définitions successives du paysage pour essayer de rattraper ce que la définition que je citais en commençant, partie de pays que la nature présente à un observateur, peut avoir d'incomplet ou d'insuffisant. D'abord, il me semble que ce qui fait paysage, c'est quand le perceptif devient affectif. Un paysage qui fait paysage, c'est pas qu'il c'est donc c'est un lieu d'échange ou d'interaction entre les montagnes et les eaux, mais aussi bien entre le moi et le monde. Ça, c'est ce que la Chine nous apprend, entre physicalité et intériorité. Au fond, il y a paysage quand l'extérieur sort de son indifférence et de sa neutralité. Et c'est un tel couplage entre le monde et moi que naît le paysage. Donc il y a paysage quand le perceptif se révèle en même temps affectif. Donc que je sens à la fois, si vous voulez, dedans et dehors. Que je perçois dedans et dehors à la fois. Que je ne perçois pas seulement le dehors, extérieurement, mais que je perçois aussi intérieurement. Alors je dis perceptif, non pas perceptible, non pas perçu, perceptif, c'est-à-dire quand c'est la capacité de perception tout entière qui est requise, perceptif. Parce que quand je suis rapport avec un paysage, je ne perçois pas tout. Simplement, c'est ma capacité de perception qui se trouve convoquée, qui se trouve mobilisée. Et donc, il y a paysage, me semble-t-il, quand le perceptif se double ou se doue d'affectivité. C'est en sens ça que je rejoins le thème de l'intime. C'est-à-dire que, quelque part, se met entre parenthèses la fonction du moi-sujet, du moi-souverain, et que quelque chose advient entre moi et le monde, entre cet entre auquel qui me paraît important à penser. Parce que nous n'avons pas développé de pensée de l'entre en Europe. Entre d'une préposition, qui n'a pas ce type de concept. Et je dirais que les Grecs ont privilégié le méta de l'au-delà, le méta de la métaphysique. Et peut-être qu'ils ont négligé le métaxu de l'entre. Non pas de l'intermédiaire, de la travers. Et je crois que cette préposition « entre » est une préposition que la pensée jeune nous aide à penser. Et d'abord, très bel idéogramme, c'est les deux battants de la porte entre lesquels passe le rayon de lune. Donc ce qui passe à travers la porte, sous la porte, à travers la porte, ce qui passe à travers. Non pas de penser donc de l'intermédiaire, l'entre-deux, mais de la travers. Eh bien, la pensée du paysage, telle que la développe la pensée chinoise, c'est donc la pensée de l'entre, entre moi et le monde. Donc, remettant en question ce qui a été ce grand acquis de la philosophie européenne comme étant l'autonomie du sujet, et qui nous oblige, je crois, à une difficulté que moi j'ai rencontrée en essayant de traiter de cela, qui est de penser ce rapport d'influence, d'induction entre le moi et le monde. Donc, quitter les catégories psychologiques des facultés pour essayer de penser ce qui se passe comme relevant d'une pure phénoménalité, saisir ce réactif en moi et saisir ce réactif en moi comme appartenant lui-même au monde. Alors l'autre terme pour dire paysage en chinois, plus tardif, mais qui progressivement jouxte la forme initiale de montagne et d'eau, c'est vent-lumière. Là encore, une corrélation. Le vent, donc la dimension de ce qui traverse, de ce qui anime, de ce qui fait vibrer le vent, alors, vieille notion chinoise qui a donné son titre au premier recueil de poésie en Chine, vent de pays, guofeng. Le vent est donc c'est ce qui passe à travers, qu'on ne voit pas, mais dont on voit les effets, dont on perçoit plutôt les effets. Formule de Confucius, à propos du prince, le vent passe, les arbres s'inclinent. Donc le vent, c'est ça, c'est cette sorte, cette chose invisible, plutôt imperceptible, mais qui a des effets sensibles. Donc pensez le paysage comme étant, je dis ça à votre, en livrant votre expérience, n'est-ce pas, comme étant cette corrélation de vent et de lumière. Pour saisir ce qu'il y a, l'immédiat du paysage, donc à la fois cette dimension d'imperceptible animant, influent, le vent, et en même temps cette dimension de ce qui fait apparaître à la vision, à la vue, n'est-ce pas, fait advenir dans le visible la lumière. Une façon comme de l'autre, montagne, eau ou vent-lumière, c'est une corrélation qui saisit la pensée du paysage, d'une corrélation, d'une polarité. Alors, ce sur quoi a incité la pensée chinoise, c'est la séparation possible, l'indissociabilité entre paysage et émotion. Et pourquoi la pensée chinoise a été à l'aise pour penser le paysage? Parce qu'elle pense en termes de polarité, de yin et yang, de ciel et de terre, etc. Donc deux termes opposés et complémentaires, engagés dans une corrélation. Donc le paysage, c'est cela, c'est ce qui se tisse entre le moi et le monde, et qui est à la fois du perceptif et de l'émotif. C'est en même temps l'un et l'autre. Alors, il y a un très beau texte d'un penseur du XVIIe siècle que je présente un peu dans ce livre pour dire oui, l'inséparabilité de l'émotion et du paysage. Je vois Ting et Qing. Ou plutôt le fait qu'on les sépare par le langage, nominalement, mais qu'en fait, ce que fait apparaître le paysage, c'est l'inséparabilité de l'affectif et du perceptif. Donc voilà, définition du paysage qui serait le fait qu'il y a paysage quand le perceptif est en même temps, ou se révèle en même temps, affectif. À quoi je mettrais en vis-à-vis un autre accès au paysage, par une autre formulation faisant aussi définition, je dirais qu'il y a paysage quand du physique se dégage du spirituel. Évidemment, parlant du spirituel, on est un peu mal à l'aise, parce que la science spirituelle nous fait basculer en Europe dans le grand dualisme du physique et donc du sensible, etc. Et puis de ce qui serait coupé de lui comme étant le spirituel, l'intelligible, etc. Alors, je suis donc amené à m'interroger sur cette notion d'esprit dont on ne sait pas très bien que faire aujourd'hui. Esprit, surtout spirituel, comme on dit, valeur spirituelle. Bon, quelque chose d'un peu embarrassant. Et il faut donc, je crois, solliciter cette notion d'esprit pour essayer de voir si on peut en faire autre chose que ce qu'on a fait, de façon héroïque, encore une fois, la philosophie européenne en séparant l'esprit du sensible, du physique, comme l'a fait la métaphysique. Alors, si on regarde un peu ce que ce terme d'esprit, peut-être qu'on peut déjouer cette difficulté que j'évoquais en s'arrêtant sur un sens qui est un sens quasiment éteint aujourd'hui, ou qui ne survit que anecdotiquement, dans certaines expressions, quand on dit esprit du vin, esprit d'un parfum, qu'est-ce qu'on dit là? Qui n'est pas l'esprit, qui est, je dirais même le contraire de l'esprit dualiste séparé du corps. Quand on dit esprit du vin, ça signifie qu'il y a quelque chose qui se dégage du vin, qui s'en dégage, c'est le terme auquel je tiens, qui s'en dégage, qui s'en déploie, et qui permet donc, qui donne une sorte d'aura. Aura, là encore un terme un peu difficile à manier, mais que l'esthétique a quand même récupéré, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se dégage de la physicalité et qui s'en déploie. Eh bien, c'est de cette façon-là que la Chine a parlé de l'esprit d'un paysage. Comme ce qui se déploie, émane, se dégage de la physicalité et la déploie, sans rompre avec elle. Comme on dit donc dans notre... Alors évidemment, voyez ce qu'il me faut faire, il faut que j'aille chercher un sens un peu en marge du sens, bon, bien connu d'esprit. Dans quelque chose qui peut paraître un peu... Qu'on voit ce terme esprit du vin ou quintessentiel. C'est un terme qui pour nous est un terme... Mais il faut que j'aille chercher ça pour essayer de faire passer en termes européens des choses qui ne se rangent pas d'emblée, les choses chinoises qui ne se rangent pas d'emblée sous nos catégories. Donc, invoquer un vocabulaire qui fait un peu alchimique, n'est-ce pas, ou un peu obscurantiste, mais parce qu'il faut que je me décale des catégories européennes, sinon je vais... Vous savez, c'est le problème de la sinologie. C'est que si je dis en bons termes européens ce que je lis en chinois, eh bien, ce sera toujours la lune par rapport au soleil. C'est-à-dire que la pensée chinoise sera toujours une sorte de variation de la pensée européenne. Mais si je veux lire chinois en chinois, et essayer donc de faire entendre ce qui peut faire écart avec la pensée européenne, maintenant, il faut que je dise en français. Donc, je suis dans cette difficulté, cette contradiction qui est qu'il faut que je fasse passer de l'autre d'un terme du même, n'est-ce pas ? Donc là, il faut y aller prudemment, en forçant un peu la langue, mais en espérant rester lisible, n'est-ce pas ? De façon à rouvrir ma langue. La rouvrir pour essayer de faire dire quelque chose qu'elle ne songeait pas à dire, mais qui est intelligible, et que à déplier les cohérences chinoises, on peut effectivement comprendre. Donc voilà, je vous proposerai donc de revenir à ce sens d'esprit qui est resté chez nous de façon comme ça locale, dans des expressions un peu figées, esprit du vin, esprit d'un parfum, et bien de dire de la même façon, esprit d'un paysage. Et c'est ce que je fais, les beaux textes, magnifiques textes chinois. Je présente notamment un texte de Zhong Bing, qui est le premier texte au monde sur le paysage. On peut dire que c'est le premier texte au monde, puisqu'il y a deux cultures du paysage, la chinoise et l'européenne. Nous nous sommes mis assez tard, les Chinois beaucoup plus tôt, 1000 ans plus tôt. Et il y a donc ce penseur, qui est aussi un très grand peintre, et dont je peux dire vraiment qu'il a, quand on lit ses biographes, vécu de paysage. Car il faut que je justifie mon titre, vivre de. Hein, vivre de paysage. Ce de qui est un peu limite en français, qui signifie qui pas seulement la manière, pas seulement le moyen, qui signifie, comme on dit, vivre d'amour et d'eau fraîche, n'est-ce pas ? Ce « de » comme ça, originaire, n'est-ce pas ? Ce « de » qui fait entendre une source, un fond dont on peut vivre, n'est-ce pas ? Bien, c'est ce que la penseuse nous apprend à faire, en décalant donc le paysage de la vue, du visuel, de l'aspectuel, de l'observateur, de la perspective, de tout ça, pour le mettre du côté, eh bien, du vivre. Et c'est pour ça que je me suis intéressé à ce thème du paysage, puisque je suis comme ça en train d'élaborer une philosophie du vivre, le paysage me paraissait fournir un appui. Le paysage tel qu'on l'a compris en Chine fournir un appui à cela. Alors d'abord, il faut quand même revenir non pas au point de départ, mais ce qui doit être dit en tout cas pour commencer, à savoir, et on ne peut comprendre la pensée du paysage que si l'on songe à cela, que les Chinois pensaient ce qu'on appelle le réel, grand X, hein, en termes, à partir de ce terme, qi, qui est traduit par souffle, respiration, énergie. N'est-ce pas ? Ceux qui font du qigong font travailler leur qi. N'est-ce pas ? Et qui est figuré par cet idéogramme chinois qui est qui figure la vapeur qui s'élève au-dessus de la marmite. N'est-ce pas ? La marmite, ça c'est du solide, le riz qu'on cuit, n'est-ce pas ? Et puis il y a quelque chose qui s'élève au-dessus, qui est entre visible et invisible. Perceptible, imperceptible, n'est-ce pas ? Et qui se déploie, qui se dégage, qui émane, qui, comme ça... Eh bien, c'est de ça dont les chinois sont partis pour penser ce que nous appelons le réel, terme évidemment très marqué, réel, reste, la chose, la substance, enfin là, on est dans la physique européenne. Peut-être, je lirai ce passage parmi tant d'autres, n'est-ce pas, qui évoque ainsi... Traduit par souffle énergie, chi, souffle énergie, le souffle énergie se déployant en grand vide originel s'élève et s'abaisse, toujours la polarité, n'est-ce pas, et évolue sans cesse. Tel est le ressort du vide et du plein, du mouvement et du repos, le départ du yin et du yang, du dur et du malléable. Donc vous voyez, le penseur ici, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne construit pas des concepts, il fait jouer des corrélations. Il fait jouer des appariements. Le vide et le plein, le mouvement et le repos, le yin et le yang, le dur et le mou, etc. Flottant et montant, telle est la limpidité du yang. S'abaissant, descendant, telle est la confusion du yin. Donc vous avez deux facteurs, deux vecteurs, yin-yang, qui sont à la fois opposés, l'un de déploiement, le yang, l'autre de concentration, le yin. L'un donc s'élevant, l'autre s'abaissant, mais qui sont en corrélation. À travers incitation et communication, rassemblement et dispersion, se forment le vent et la pluie, le givre et la neige, le cours continu des existants innombrables, la fusion-concentration des montagnes et des eaux, le paysage. Donc le paysage, vous voyez apparaître ici, dans un texte philosophique, comme étant le condensé de ce qui a été le déploiement du réel à partir du fond indifférencié des choses et l'énergie, qu'on dirait comme ça, énergie cosmique, s'actualisant dans ce rapport de montagne et d'eau. Alors c'est ce qui fait que... Alors il faut penser ce qu'est cette notion donc première de souffle énergie, perceptible, imperceptible, en tension continue, en tension par la corrélation de ces deux facteurs de yin et de yang, de vide et de plein, de montant et de descendant, etc. Pour comprendre cette phrase clé de ce grand texte, premier grand texte au monde sur le paysage, de Dongbing, quand il dit « Le paysage, il y a de la matérialité, mais, je peux traduire aussi bien, de sorte que, tendant au spirituel. » Je répète la formule. Il y a de la matérialité, il y a de la matérialité, or, alors, « heure » est ce mot, en chinois classique, il y a des mots pleins et des mots vides. Et ce mot vide « heure » signifie deux choses, aussi bien l'un que l'autre, mais, l'opposition, et de sorte que, à la fois la concession et la conséquence. Si vous dites « yin, heure, yang », on peut dire « yin, mais, yang », les deux s'opposent, et du « yin », passer au « yang ». Et quand vous avez compris ça, vous êtes entré dans la pensée chinoise. Comprendre comment la concession est aussi bien la conséquence. Eh bien donc, il est dit ici, il y a de la matérialité, matérialité, physicalité, il y a du physique dans le paysage, mais de sorte que, tendance spirituelle. Donc le paysage, c'est quand la physicalité, la matérialité émane, dégage, s'évase et se déploie en infini. Donc quand du fini de la physicalité se déploie quelque chose qui prend dimension d'infini, ce que j'appelle le spirituel, n'est-ce pas, la dimension infinie des choses. Alors, si on lit ce texte de plus près, on voit comment, alors, parce que ça se situe donc au 5e siècle, le bouddhisme est entré en Chine, le bouddhisme vient d'Inde, il entre en Chine, donc le conduit à une sorte de réorganisation de la pensée chinoise, et on voit comment Dongbing s'approche du dualisme et prêt de passer du côté de métaphysique, mais s'en retient, à travers le paysage. Parce que le paysage, c'est la physicalité, mais qui exprime de la spiritualité. Exprimer, c'est-à-dire, fait passer à travers elle, déploie à partir de lui, la physicalité. Donc, physicalité, exprimant du spirituel, voilà ce qu'est un paysage. Donc, au sein du paysage, la physicalité s'évase, s'évade, n'est-ce pas ? Dans l'invisible, en aura. Le paysage est par où la profondeur sans fond de l'invisible nous devient, dans son essor, éminemment sensible. Donc c'est la catégorie que ferait prévaloir la pensée chinoise, celle de l'évasif. L'évasif. Qui est donc cette modalité qui n'est pas de pure physicalité, qui n'est pas non plus de spiritualité en rupture avec le physique, mais qui est la façon dont la physicalité se déploie, évasive, s'évase, n'est-ce pas, s'évade, enfin, et dans cette expansion qui fait qu'elle n'est plus limitable, qu'elle n'est plus contenue, qu'elle n'est plus réifiable. Alors là, les formulations chinoises sont très belles pour le dire. Toujours par couple, pardon, xing shi. Xing, c'est la forme des choses, et shi, c'est la tension qui les traverse. Ou encore qi xian. Qi, c'est ce souffle énergie qui se déploie, et xiang, c'est eh bien, la manifestation sensible de ce déploiement d'énergie. Très couramment, ces quatre caractères jouent deux par deux. Xing Shi Xiang signifie le paysage. Au point que c'est l'aboutissement de ce très beau texte de Dongbing, de penser en corrélation le sage et le paysage. Au fond, le paysage est l'enseignement de la sagesse. C'est pour ça que c'est si important le paysage en Chine. Ce n'est pas une chose parmi d'autres. C'est par où nous comprenons, ou plutôt par où nous accédons, n'est-ce pas, à ce qu'est la réalité du monde et de la voie. Hein, Tao. Alors, très belle formule en parallèle, quand il est dit, le sage, alors le sage c'est aussi le sage bouddhique, n'est-ce pas, le sage, par son esprit, donne forme à la voie, Tao, terme que vous connaissez tous, n'est-ce pas, en parallèle, montagne haut, par leur forme actualisée, rendent attirante la voie. Donc le paysage nous fait aimer la voie. Le paysage nous fait aimer le Tao. Parce qu'il nous rend sensible. Il nous rend sensible à cette dimension d'infini au travers du fini. Bon, donc, vous voyez que l'affaire du paysage est sérieuse. C'est pour ça qu'il y a poésie de paysage. Plutôt, la grande poésie chinoise, c'est toujours une poésie de paysage. Et pourquoi la peinture chinoise, c'est une peinture de paysage? Non pas parce qu'il y a des peintres chinois, mais parce que tout chinois lettré manie le pinceau, et manie le pinceau pour écrire des poèmes, et manie le pinceau pour tracer des montagnes et des eaux. Et c'est en faisant cela eh bien, qu'il accède à, disons, la compréhension du monde. Je ne sais pas comment le dire, qu'il accède à... Bah, qu'il accède au Tao, comme disent les Chinois, n'est-ce pas? Parlons comme eux. Donc, vous voyez à partir de là que ce qui fait paysage, c'est à partir de ces corrélations de montagne et d'eau, de vent et de lumière, c'est une mise en tension. Une paysage, et c'est de cette mise en tension du paysage que la physicalité dégage et émane de l'infini ou du spirituel. Mais c'est, donc, ce qui n'est pas la notion essentielle sur laquelle je voudrais m'arrêter un instant pour en faire un concept, c'est celui de mise en tension. Le paysage, alors c'est là qu'on entend, je reviendrai donc au terme français, au terme européen, pays-paysage, car j'ai commencé à critiquer la définition du paysage, définition banale, enfin, du Robert, partie de pays que la nature offre à un observateur. Pour donc retirer le paysage purement visuel, aspectuel, du rapport partie de tout, du rapport sujet-objet, pour essayer de le concevoir du côté du vivre. Mais je dirais qu'il y a quand même, le mot français est très beau, paysage. Pays, paysage. Je trouve ce mot très beau parce qu'il dégage de pays, du paysage ou du paysagement. Et si on regarde un peu la littérature française du paysage, ben, un grand moment, c'est Rousseau. Rousseau dans La Nouvelle Héloïse, lettre 23, où il commence à dire ceci, il commence par parler du pays. C'est dans une lettre à Julie, qui commence ainsi, lettre 23 du livre 1 de la Nouvelle Héloïse. « À peine ai-je employé 8 jours à parcourir un pays qui demanderait des années d'observation. » Là, on est dans la définition première du paysage. Observation. Le pays. Et 3 pages plus loin, à la fin de la lettre, il dit « J'aurais passé tout le temps de mon voyage dans le seul enchantement du paysage. » Ah ouais, il a tiré de pays paysage, notre grand Rousseau. Et il le fait par voyage. C'est plus le pays observé, il faudrait du temps pour tout observer, c'est pas, mais c'est l'enchantement du paysage. Enchantement du paysage, et là on sent ce suffixe français, enfin âge, c'est pas, ce prolongement que je trouve fort beau, et le fait qu'il commence à faire rimer paysage et voyage, ce qui a une longue postérité, et qui fait que cette lettre a le grand mérite de ne pas être une description à partir d'un point de vue, qui serait donc le panorama, que cette lettre fait tout autre chose, parce qu'il raconte une promenade, donc un voyage. Et donc, tantôt, il ne cesse de varier ce qu'il voit, au lieu de rester à cette position stratégique du sujet, regardant le paysage comme un panorama. Oui, je citais aussi, parce que c'est un beau vers, alors... Un beau vers chinois bien traduit en français. c'est rare, donc il faut le signaler, est traduit par Demierville, Guopo, Shanrodzai en chinois, poète de fou au 8e siècle, quand il y a la grande révolte à Lushan, que le pays est brisé. Et Demierville a très bien traduit ce vers, et il le mentionne parce que quand, au moment de la débâcle, en 40, n'est-ce pas, le pays est brisé, reste le paysage. Traduction littérale du chinois, du grand vers de Dufu, le pays est brisé, reste le paysage. Mais là, vous entendez bien comment paysage joue avec pays, n'est-ce pas, et ajoute quelque chose, n'est-ce pas, qu'il faut donc essayer de cerner de plus près. Alors, quel est ce sens de âge dans paysage par rapport à pays? La position classique, c'est de dire âge, ce suffixe français, a une fonction d'assemblage. Et là, on peut citer Baudelaire dans son article Paysage, commençant ainsi. C'est à l'assemblage d'arbres, de montagnes, d'eau et de maisons que nous appelons paysage. Alors, est-ce que la valeur de âge dans paysage n'est que d'assemblage? Ça a été beaucoup dit, je m'en sépare, parce que âge a une autre valeur en français qui est celle de l'opération, comme on dit justement assemblage, assembler, assemblage. Et il me semble justement, donc je serais amené progressivement à m'écarter de ce qui a été la compréhension la plus courante aujourd'hui du paysage, puisqu'il y a une immense littérature sur la question, où on dirait que, je vous cite une définition de Françoise Chenet-Faugerat dans un article intéressant d'ailleurs, disant ceci, poursuivant Baudelaire donc, un assemblage, le paysage est un assemblage d'éléments disjoints et informes que le regard, toujours lui le regard, c'est-à-dire en fait l'esprit, est réuni dans un ensemble signifiant. Donc, est-ce que le paysage, c'est ça? Je répète la définition, un assemblage d'éléments disjoints et informes, donc du composite, du rhapsodique, comme dirait Kant, que le regard, c'est-à-dire en fait l'esprit, réuni dans un ensemble signifiant. Elle rajoute, à partir de présupposés culturels et linguistiques d'un sujet. Là, vous avez la définition européenne, c'est pas, il y a le sujet, avec bon, présupposé culturel, linguistique, et donc qui compose le paysage, à partir des éléments divers, voire hétérogènes. Est-ce que le paysage n'est que ça? Un effet de composition par le regard, c'est-à-dire par l'esprit. Alors, je serais amené à plaider quelque chose d'autre. À quoi tient l'effet de paysagement? Non pas peut-être un effet tant de structuration, composition, structuration, que d'un effet d'intensification, ce que j'appelle la mise en tension. Donc ma proposition sera celle-là, de penser qu'il y a paysage quand du pays se met sous tension, en tension. Quand ces différents éléments, ces différents facteurs, entrent en interaction, non pas en composition, comme les montagnes et les eaux, comme le vent et la lumière, s'organisant en polarité, d'où découle un accroissement d'intensité. Je dirais de même qu'il y a un effet de moment, il y a un effet de paysagement. Un effet qualifiant de paysagement. Alors, c'est une chose qui a été très bien dite par les penseurs peintres chinois. Peintre-penseur, n'est-ce pas ? La pensée-peinture hein, chinoise. Pour nous décrire comment un paysage, c'est une mise en tension multiple. C'est-à-dire que la tension, d'ordinaire plus éparse dans le monde, il revient au paysage, sortant de la platitude du pays, de la focaliser et de la concentrer. Je vois par là que les concepts proposés traditionnellement pour la pensée du paysage, ceux d'harmonie ou ceux de géométrie sous-jacente, je pense notamment à ce qu'on en lit chez Nietzsche, ne suffisent pas. Donc le paysage provient d'une logique non pas de composition-intégration harmonieuse, mais d'intensification. C'est ce qui fait que je me séparerai de ce qui a été une conception forte aujourd'hui, intéressante, je pense notamment à Alain Roger, qui considère le paysage comme étant le produit d'une artialisation de l'esprit. C'est-à-dire que c'est l'esprit, le regard qui produit du paysage. Au fond, qui compose le divers de la perception pour en faire un paysage. Alors, Alain Roger, évidemment, a raison de montrer comment notre paysage en Europe s'est déployé. Au départ, le paysage, c'était quoi? C'était la campagne près de la ville. Le bucolique, le champêtre. Et puis le paysage, il s'est déployé. Le paysage, au 18e siècle, on a découvert la montagne comme paysage. Avant, la montagne était un lieu horrible. Il suffit de se rappeler ce que Montesquieu, si j'ose le nommer ici, raconte du Tyrol, n'est-ce pas? Horrible. Bon, la montagne ne constitue pas les paysages. Ni non plus la mer. Ni la mer, ni la montagne. Et puis, progressivement, si, nous sommes allés là-bas et nous avons promu, déployé du paysage dans différents sens. Ce qui donc confirmerait la thèse selon laquelle c'est le regard qui produit du paysage. Donc le regard, plutôt que le paysage, est le produit de l'artialisation du regard. C'est-à-dire que le regard, en fonction de ses conventions esthétiques, produit du paysage. Alors, la thèse est intéressante, mais je relèverai une remarque que fait Alain Roger en remarquant que les peintres, plus ils ont grimpé, moins ils ont peint. C'est-à-dire que jusqu'à une certaine hauteur, on peint. Et après, on ne peint plus. Les sommets, on ne les peint pas. Et heureusement, la photographie après le relais ou la relève a remplacé la peinture. Alors, cela m'amène à repenser à la distinction entre vue et paysage. Le fait que, au fond, ce qui est... il peut y avoir vue sans qu'il y ait pour autant paysage. Et peut-être, ce qui fait qu'il y a vue sans qu'il y ait pour autant paysage, c'est qu'il n'y a pas mise en tension. Si vous avez un sommet neigeux, que de la hauteur, il y a de la vue. Pour qu'il y ait paysage, il faut qu'il y ait du haut et du bas. Il faut qu'il y ait, comme diraient les Chinois, du rocheux et de l'herbeux. Il faut qu'il y ait de la roche et de l'eau. Enfin, il faut qu'il y ait mise en tension. Mise en tension, corrélation. Alors, je me suis pensé justement, par exemple, qu'est-ce qui fait paysage? Enfin, c'est la question, qu'est-ce qui fait paysage? Pour qu'il y ait paysagement, il faut qu'il y ait mise en tension. Donc, il faut qu'il y ait des opposés qui travaillent entre eux. Une côte avec le rivage, n'est-ce pas? Est-ce qu'en pleine mer, il y a paysage? Je sais qu'il y a vue. Il n'y a pas paysage, alors qu'il y a paysage sur la côte, parce que dans la côte, il y a la terre et de la mer, il y a du rocheux et du liquide, il y a diverses polarités, diverses corrélations qui jouent entre elles. Par exemple, alors, si je prends la côte... là.
Vous prenez cet exemple dans votre livre, d'ailleurs. Hein?
Oui, il faut que j'y aille.
Le Languedoc, sinon... la Bretagne, la Normandie.
Oui, il faut que je voyage, effectivement. Mais ça prend du temps. Par exemple, la côte méditerranéenne entre Collioure et l'Estaque. Autour de Marseille, ce qui attend. L'Estaque peint par les fauves, Collioure peint par eux encore, l'entre-deux. Eh bien, me semble-t-il... le paysage se raréfie. Mais à Collioure, le paysage se retrouve parce qu'il y a la montagne, parce qu'il y a des baies, parce qu'il y a la tension qui revient. Alors que, les offices de tourisme ne vont pas m'aimer, mais disons, la côte entre Montpellier, Béziers, etc., je trouve que c'est du pays, c'est pas du paysage. En tout cas, ce que je voulais dire d'abord, c'est ça, c'est est-ce que le paysage n'est qu'un effet d'artialisation? Parce que Philippe Roger, Alain Roger pense qu'il y a donc deux types de paysages, in situ, in visu. Celui qu'on serait dans le site même et qui tendrait à disparaître aujourd'hui, mais l'outil, ce n'est pas grave si le paysage disparaît, puisqu'au fond, l'œil peut toujours en recomposer. En recomposer, en restructurer. Et ce qui me paraît conduire à une opposition qu'il fait et que je trouve sujet à la caution, qui est entre la pensée du paysage et la pensée de l'environnement. Car évidemment, si vous avez une conception du paysage par artialisation, vous allez, comme il fait, rejeter tout ce qui est environnement. Disons, mais non. Par l'environnement, c'est justement le rappel du vivre. C'est que l'environnement, c'est justement de faire reparaître le paysage, non plus comme étant du visuel aspectuel, mais comme étant du milieu, comme étant de l'influence, comme étant ce qui, justement, nous induit de façon non définie. De la question que je vais poser, en même temps que... pensez ce que sont ces termes négatifs chez nous quand on parle de balafre.
parle de balafre dans un paysage. Un fil électrique comme ça qui traverse, qui, bon, balafre. Eh bien, il me semble que la balafre, c'est pas... c'est ni bon ni laid, mais la balafre, justement, rompt la mise en tension. Elle rompt, n'est-ce pas, cette mise en tension. De même, ce qu'on appelle le mitage, n'est-ce pas, quand vous avez, non pas... chaque fois, n'est-ce pas, la maison phénix, son petit jardin, sa pelouse, et puis la maison, bon, comme ça, qui se répète comme ça, bon, mitage, dit-on. Hein. C'est comme ça que les spécialistes de l'environnement désignent ce phénomène. Mais il me semble que chaque fois, ça correspond à une rupture de tension, de mise en tension qui faisait paysage. Bon, je voudrais simplement signaler que j'ai retenu, j'essaie, voilà, progressivement de produire un concept de paysage. Je regarde les trois traits principaux de cette mise en tension. La dimension de singularisation, la dimension de variation, la dimension de lointain. Voilà, trois mises en tension possibles qui font paysage. Singularisation, parce qu'un paysage, c'est du singulier. Bon, là, je ferai marcher la bonne dialectique hegelienne, qui est ce n'est pas du particulier, un pays est particulier. Mais le paysage, c'est quand, justement, il y a localement un tout du monde. Hein, ce n'est pas un coin du monde, c'est un tout. Localement, mais du tout. Donc, singularisation, ce qui est très important là, c'est que le singulier, c'est la modalité même de l'exister. Comme on dit en latin, en opposant, n'est-ce pas, la singularité des existences, existentia est singularium. L'existence relève des singuliers. Il me semble qu'il y a quelque chose d'essentiel dans notre rapport au paysage, c'est que le paysage, se dégageant du pays, fait émerger du singulier, c'est-à-dire de l'unique, mais qui est en même temps total, qui est en même temps un monde, un tout. Et cela nous renvoie à notre propre singularité d'existant. Quand on lit la poésie, notamment la poésie chemin du paysage, on voit bien comment le paysage, comme ça, provoque ce retour sur soi qui est un retour à la singularité de moi existant dans ce paysage. Donc, je dirais le paysage, faisant émerger sa singularité, fait ressortir mon existence individuelle, me rappelle à mon sentiment d'exister. Premier point, variation. Variation, alors là, ce serait pas tant mon rapport à l'exister qui est en jeu que le fait de la variation, ce que décrit Rousseau quand il parle de ce paysage-là dans la Nouvelle Héloïse, tantôt ceci, tantôt cela, la variation, est une mise en tension qui dégage le paysage de l'atonie du pays. Pays atone. Je crois que c'est ça le. Et le paysage, au contraire, met de la tension dans l'atone. Atone, monotone. Vous voyez ce qui fait le pays quand on traverse des landes comme ça qui n'en finissent plus, n'est-ce pas, quand on traverse les États-Unis, enfin, toute une partie, n'est-ce pas, c'est uniforme. Eh bien, contre l'uniforme, la poikilia, comme disaient les Grecs, la variation. Je dis variation, non pas variété, parce que je pense en termes de processus. On a souvent décrit la variété comme étant le caractère du paysage. C'est même le prédicat le plus attribué au paysage, un paysage varié. Eh bien, je dirais plutôt Fontenelle, n'est-ce pas, la variété fait le charme du paysage, plutôt variété, variation. Bon, il y a très beau texte chinois là-dessus, tout un art, et le lointain, enfin, le lointain. Le lointain qui est justement cette façon dont le paysage se dégage, décante du spirituel à partir de la physicalité. Il faut du lointain pour un paysage. Il faut donc cette dimension d'évasement, cette dimension d'infinitude qui se déploie. En quoi le paysage se distingue du jardin? Le jardin, lui, peut être emmuré, hortus conclusus, il peut être refermé, un paysage est ouvert. La question du jardin et du paysage, pour moi, c'est celle de l'ouvert par rapport au fermé. Lointain produit de l'évasement, produit cet évasif. Il déprécise, il dégage, il décante, il ouvre sur de l'indéterminé et de l'infini, il ouvre le vaguement, vaguement. Alors, ce qui est très important en Chine, c'est que nous avons pensé le paysage, nous, par rapport à l'horizon. On sait le grec, horizon, horismos, ce qui délimite, définition, horizein. Alors que la pensée du paysage en Chine, au contraire, défait l'horizon. Il n'y a pas d'horizon. Il y a un approfondissement sans fin. Il y a des plans et des plans qui se succèdent. Ça n'en finit pas. Ouchon, ça ne s'épuise pas. Ça ne tarit pas. Donc l'évasif, ce vaguement, c'est ce que... Alors, les textes sont magnifiques, mais 697 peut-être. Juste une page, parce qu'il y a très beaux textes chinois, notamment le grand Wang Wei qui dit « Les hommes au loin sont sans yeux, les arbres au loin sont sans branches, les montagnes au loin sont sans rochers, apparaissant à peine comme des cils. » une montagne au loin. Il n'y a pas d'horizon qui finit, qui délimite. Le geste grec de mettre de la limite au bout des choses, non. Il y a, apparaissant à peine comme des cils, les eaux au loin sont sans vagues, à même hauteur que les nuages. Pas d'horizon. Et alors, tout l'art, c'est justement de, à la fois d'effacer au loin et d'enfouir à proximité. Pour faire apparaître, disparaître, pour créer cette dimension de lointain qui anime, qui dégage et qui fait que donc, la physicalité se décante, c'est pas, et s'ouvre sur de l'infini. C'est ça la dimension spirituelle du paysage. Donc, estompement loin, enfouissement à proximité, il y a une distance interne comme il y a une distance externe. Et l'important étant que le lointain ouvre au sein même de la proximité, par espacement interne, ouvre sur un au-delà, mais un au-delà qui ne coupe pas avec l'ici. C'est ça la grande leçon chinoise du paysage. C'est donc un affranchissement du sensible qui ne coupe pas avec le sensible, qui n'est donc pas de la métaphysique, n'est-ce pas ? Donc ouvrir un au-delà qui ne rompt pas avec l'ici, avec la physicalité. Bon, le dernier concept que j'aurais voulu proposer pour le paysage, c'est connivence. Connivence. Pour revenir sur ce thème que je trouve un peu ennuyeux, romantique à l'excès, de la communion avec la nature. Terme un peu mystico, je ne sais quoi, n'est-ce pas, dont je me méfie un peu. En tout cas, je pense insuffisant. Pour penser à connivence. La connivence, on regarde la connaissance. Pour moi, c'est deux termes qui sont du même niveau, de même importance, la connaissance ou la connivence. Je vois que nous alternons nous-mêmes tous entre connaissant et connivant. Nous sommes connaissants quand nous sortons, nous redevenons connivants quand nous rentrons chez nous. C'est pas, quand je parle public, je suis plus connaissant. Quand je rentre en famille, plus connivant. Nous sommes dans ce rapport-là, n'est-ce pas ? Plus connaissant, plus connivant. Et bien, je vois que le paysage nous fait apparaître, nous met dans un rapport de connivence. De connivence. C'est-à-dire qu'il fait apparaître le lieu comme étant un lien. C'est ça la connivence. Le lieu comme étant un lien. Et donc, le propre du paysage est de me faire appartenir au monde. C'est ça, le paysage. Me fait appartenir au monde. Plutôt que je ne m'y rapporte plus seulement comme dans un lieu, mais je me relie alors au monde en tant que tel, dans sa totalité. C'est-à-dire que le paysage, c'est ce par quoi je me relie au monde en tant que monde. Surgit du paysage quand ce lieu-ci, singulier comme il est, s'assemblant comme il le fait, devient monde. Belle formule de Stendhal encore, n'est-ce pas ? Le paysage comme un archer qui jouait sur mon âme. C'est le paysage, l'archer. Moi, je suis la caisse de l'instrument, n'est-ce pas ? Le paysage est l'archer qui fait vibrer, n'est-ce pas, mon intériorité. Bon, très beau texte de Nietzsche que je mettais en regard. En tout cas, oui, je citais Stendhal parce que si vous prenez la belle page de Stendhal de la description du lac de Côme au début de la Chartreuse de Parme, ben vous retrouvez tous ces traits que j'ai ici, comme ça, essayé de mettre ensemble. Ce concept du paysage, vous retrouvez la singularité, vous trouvez la variation, vous trouvez le caché, le disparaissant, apparaissant, vous trouvez le lointain. Donc je crois qu'au fond, il y a un concept du paysage qu'ont saisi les peintres ou Rousseau ou Stendhal, et que peut-être la philosophie, par contre, a raté en fonction de ses a priori, savoir la position du sujet, la définition, et tout ce que j'ai trop hâtivement évoqué. Un mot pour que ce ne soit pas ma conclusion, que ce soit juste ma façon d'échapper, qui est ce thème chinois du kiosque, enfin je traduis par kiosque, ting en chinois, qui est, vous avez sans doute vu dans les peintures chinoises, ces petits pavillons qui sont ici ou là, parsemés dans le paysage. Je me suis beaucoup demandé pourquoi ça. Et puis il y a une très belle littérature chinoise pour vous dire qu'est-ce que c'est que ça, ce que je traduis par kiosque, ting en chinois. C'est donc ce pavillon ouvert, qui n'est pas forcément en haut, qui est au fond là pour nous faire vivre au sein du paysage. On y est abrité, mais on n'en est pas séparé. On est donc dans cette position d'ouverture au paysage. Il y a de très belles pages chinoises là-dessus. Pour nous faire habiter, alors c'est là que je reviens à cette proposition dont j'essaie de faire un concept, dans l'antre du paysage. Car le paysage, c'est de l'antre.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.